Dans les époques connues de nous, on trouve cette conception parmi les Arabes, où Thomas Edward Lawrence l'a encore observée. En Espagne, jusqu'au moment où ce malheureux pays dut subir le petit-fils de Louis XIV et perdit ainsi son âme. Dans les pays au sud de la Loire, jusqu'à leur conquête par la France, et même après, car cette inspiration est encore sensible chez Théophile de Viau. La royauté française a longtemps hésité entre cette conception et la conception romaine, mais elle a choisi la conception romaine, et c'est pour cela qu'il ne peut être question de la restaurer en France. Nous serions trop heureux s'il y avait, pour nous, une possibilité quelconque de royauté vraiment légitime. Un certain nombre d'indications amènent à conclure que la conception espagnole de la royauté légitime était celle des monarchies orientales de l'Antiquité. Mais elle ne fut que trop souvent blessée. Les Assyriens lui firent beaucoup de mal. Alexandre aussi, ce produit de la pédagogie d'Aristote et qui ne fut jamais désavoué par son maître. Les Hébreux, ses esclaves fugitifs, l'ont toujours ignoré. Les Romains sans doute aussi, poignée d'aventuriers réunis par le besoin. Ce qui en tenait lieu à Rome, c'était la relation de maître à esclave. Cicéron déjà avouait avec honte qu'il se regardait comme étant à moitié l'esclave de César. À partir d'Auguste, l'empereur fut regardé comme étant le maître de tous les habitants de l'Empire romain, au sens d'un propriétaire d'esclaves. Les hommes n'imaginent pas qu'on puisse leur infliger les malheurs qu'ils trouvent tout naturels d'infliger à autrui. Mais quand cela se produit en fait, à leur propre horreur, ils trouvent cela naturel. Ils ne trouvent au fond de leur cœur aucune ressource pour l'indignation et la résistance contre un traitement que leur cœur n'a jamais répugné à infliger. C'est ainsi du moins quand les circonstances sont telles que, même pour l'imagination, rien ne puisse servir de soutien extérieur quand il ne peut y avoir aucune ressource que dans le secret du cœur. Si les crimes passés ont détruit ces ressources, la faiblesse est totale, et on accepte n'importe quel degré de honte. C'est sur ce mécanisme du cœur humain que repose la loi de réciprocité exprimée dans l'Apocalypse par la formule « Si quelqu'un traîne dans l'esclavage, il sera traîné dans l'esclavage ». C'est ainsi que beaucoup de Français, ayant trouvé tout naturel de parler de collaboration aux indigènes opprimés des colonies françaises, ont continué à prononcer ce mot sans aucune peine en parlant à leurs maîtres allemands. De même, les Romains, regardant l'esclavage comme l'institution de base de la société, ne trouvaient rien dans leur cœur qui pût dire non à un homme qui affirmait avoir sur eux le droit d'un propriétaire et avait victorieusement soutenu cette affirmation par les armes. Rien non plus qui pût dire non à ses héritiers, dont ils étaient la propriété par droit d'héritage. De là, toutes les lâchetés dont l'énumération équerrait Tacite, d'autant plus qu'il y avait eu part. Ils se suicidaient dès qu'ils en recevaient l'ordre, non autrement. Un esclave ne se suicide pas, ce serait voler le maître. Caligula avait derrière lui, quand il mangeait, des sénateurs debout en tunique, ce qui était à Rome, pour les esclaves, la marque caractéristique de la dégradation. Au banquet, il s'absentait un quart d'heure pour emmener une femme noble dans son cabinet particulier, puis la ramenait, rouge et décoiffée, parmi les convives, au nombre desquels était son mari. Mais ces gens avaient toujours trouvé tout naturel de traiter ainsi non seulement leurs esclaves, mais les populations colonisées des provinces. Ainsi, dans le culte de l'empereur, ce qui était divinisé, c'était l'institution de l'esclavage. Des millions d'esclaves rendaient un culte idolâtre à leurs propriétaires. C'est là ce qui a déterminé l'attitude des Romains en matière religieuse. On a dit qu'ils étaient tolérants. Ils toléraient en effet toutes les pratiques religieuses vides de contenu spirituel. Il est probable qu'Hitler, s'il en avait la fantaisie, pourrait tolérer la théosophie sans danger. Les Romains pouvaient facilement tolérer le culte de Mithra, orientalisme truqué pour snobs et femmes oisives. Il y avait deux exceptions à leur tolérance. D'abord, ils ne pouvaient naturellement souffrir que ce fût prétendît à un droit de propriété sur leurs esclaves. De là leur hostilité contre Jéhovah. Les Juifs étaient leur propriété et ne pouvaient pas avoir un autre propriétaire, humain ou divin. Il s'agissait simplement d'une contestation entre esclavagistes. Finalement, les Romains, par souci de prestige et pour démontrer expérimentalement qu'ils étaient les maîtres, tuèrent presque dans sa totalité le bétail humain dont la propriété se trouvait contestée. L'autre exception était relative à la vie spirituelle. Les Romains ne pouvaient rien tolérer qui fût riche en contenu spirituel. L'amour de Dieu est un feu dangereux dont le contact pouvait être funeste à leur misérable divinisation de l'esclavage. Aussi ont-ils impitoyablement détruit la vie spirituelle sous toutes ses formes. Ils ont très cruellement persécuté les pythagoriciens et tous les philosophes affiliés à des traditions authentiques. Soit dit en passant, il est extrêmement mystérieux qu'une éclaircie ait permis une fois à un stoïcien véritable, d'inspiration grecque et non romaine, de monter sur le trône. Et le mystère est redoublé par le fait qu'il a maltraité les chrétiens. Ils ont exterminé tous les druides de Gaule, anéanti les cultes égyptiens, noyé dans le sang et déshonoré par d'ingénieuses calomnies l'adoration de Dionysos. On sait ce qu'ils ont fait des chrétiens au début. Pourtant, ils se sentaient mal à l'aise dans leur idolâtrie trop grossière. Comme Hitler, ils connaissaient le prix d'une enveloppe illusoire de spiritualité. Ils auraient voulu prendre l'écorce extérieure d'une tradition religieuse authentique pour l'appliquer sur leur athéisme trop visible. Hitler aussi aimerait bien trouver ou fonder une religion. Auguste fit une tentative auprès du clergé d'Éleusis. L'institution des mystères d'Éleusis se trouvait déjà dégradée presque jusqu'au néant. On ignore à la suite de quoi, au temps des successeurs d'Alexandre. Les massacres de Scylla, qui firent monter le sang dans les rues d'Athènes comme l'eau monte dans une inondation, ne durent leur faire aucun bien. Il est très douteux qu'au temps de l'Empire, il subsistât aucune trace de la tradition authentique. Néanmoins, les gens d'Éleusis se refusèrent à l'opération. Les chrétiens y consentirent quand ils furent par trop las d'être massacrés, par trop malheureux de ne pas voir arriver la fin triomphale du monde. C'est ainsi que le père du Christ, accommodé à la mode romaine, devint un maître et un propriétaire d'esclaves. Jéhovah fournissait la transition. Il n'y avait plus aucun inconvénient à l'accueillir. Il n'y avait plus contestation de propriété entre l'empereur romain et lui depuis la destruction de Jérusalem. L'évangile, il est vrai, est plein de comparaisons tirées de l'esclavage. Mais dans la bouche du Christ, ce mot est une ruse de l'amour. Les esclaves, ce sont les hommes qui ont voulu de tout leur cœur se donner à Dieu comme esclaves. Et, quoique ce soit là un don accompli en un instant et une fois pour toutes, Dans la suite, ces esclaves ne cessent pas une seconde de supplier Dieu de consentir à les maintenir dans l'esclavage. Cela est incompatible avec la conception romaine. Si nous étions la propriété de Dieu, comment pourrions-nous nous donner à lui comme esclaves? Il nous a affranchis du fait qu'il nous a créés. Nous sommes hors de son royaume. Notre consentement seul peut, avec le temps, accomplir l'opération inverse et faire de nous-mêmes quelque chose d'inerte, quelque chose d'analogue au néant, où Dieu soit maître absolu. L'inspiration vraiment chrétienne a été heureusement conservée par la mystique. Mais en dehors de la mystique pure, l'idolâtrie romaine a tout souillé. Idolâtrie car c'est le mode de l'adoration, non pas le nom attribué à l'objet, qui sépare l'idolâtrie de la religion. Si un chrétien adore Dieu avec un cœur disposé comme le cœur d'un païen de Rome dans l'hommage rendu à l'empereur, ce chrétien aussi est idolâtre. La conception romaine de Dieu subsiste encore aujourd'hui, jusque dans des esprits tels que Maritain. Il a écrit « La notion de droit est même plus profonde que celle d'obligation morale, car Dieu a un droit souverain sur les créatures et il n'a pas d'obligation morale envers elles. » Entre parenthèses, encore qu'il se doive à lui-même de leur donner ce qui est requis par leur nature. Fermez la parenthèse. Fin de citation. Ni la notion d'obligation, ni celle de droit ne saurait convenir à Dieu, mais celle de droit infiniment moins, car la notion de droit est infiniment plus éloignée du bien pur. Elle est mélangée de bien et de mal, car la possession d'un droit implique la possibilité d'en faire soit un bon, soit un mauvais usage. Au contraire, l'accomplissement d'une obligation est toujours, inconditionnellement, un bien à tous égards. C'est pourquoi les gens de 1789 ont commis une erreur si désastreuse en choisissant comme principe de leur inspiration la notion de droit. Un droit souverain, c'est le droit de propriété selon la conception romaine ou tout autre qui lui soit essentiellement identique. Attribuer à Dieu un droit souverain sans obligation, c'est en faire l'équivalente infinie d'un propriétaire d'esclaves à Rome. Cela ne permet qu'un dévouement servile, le dévouement d'un esclave pour l'homme qui le regarde comme sa propriété est chose basse. L'amour qui pousse un homme libre à abandonner son corps et son âme en servitude à ce qui constitue le bien parfait, c'est le contraire d'un amour servile. Dans la tradition mystique de l'Église catholique, l'un des objets principaux des purifications à travers lesquels l'âme doit passer, est l'abolition totale de la conception romaine de Dieu. Tant qu'il en reste une trace, l'union d'amour est impossible. Mais le rayonnement des mystiques a été impuissant à anéantir cette conception dans l'Église comme elle l'était dans leur âme, parce que l'Église avait besoin d'elle comme l'Empire en avait eu besoin. Elle en avait besoin pour sa domination temporelle, de sorte que la division du pouvoir en pouvoir spirituel et temporel, dont on parle si fréquemment à propos du Moyen-Âge, est chose plus complexe qu'on ne pense. L'obéissance au roi, selon la conception espagnole classique, est une chose infiniment plus religieuse et plus pure que l'obéissance à une Église armée de l'Inquisition et proposant une conception esclavagiste de Dieu, comme ce fut dans une large mesure le cas au XIIIe siècle. Il se pourrait bien que, par exemple, au XIIIe siècle, en Aragon, le roi ait été détenteur d'une autorité réellement spirituelle et l'Église d'une autorité réellement temporelle. Quoi qu'il en soit, l'esprit romain d'impérialisme et de domination n'a jamais suffisamment abandonné l'Église pour qu'elle abolisse la conception romaine de Dieu. Par contre-coup, la conception de la providence est devenue méconnaissable. Elle est d'une absurdité criante, au point d'étourdir la pensée. Les mystères authentiques de la foi sont eux aussi absurdes, mais d'une absurdité qui illumine la pensée et lui fait produire en abondance des vérités évidentes à l'intelligence. Les autres absurdités sont peut-être des mystères diaboliques. Les uns et les autres se trouvent mélangés dans la pensée chrétienne courante, comme le blé et l'ivraie. La conception de la providence qui répond aux dieux du type romain, c'est une intervention personnelle de Dieu dans l'univers pour ajuster certains moyens en vue de fins particulières. On admet que l'ordre du monde, laissé à lui-même et sans intervention particulière de Dieu, à tel lieu, en tel instant, pour telle fin, pourrait produire des effets non conformes au vouloir de Dieu. On admet que Dieu pratique les interventions particulières. Mais on admet que ces interventions, destinées à corriger le jeu de la causalité, sont elles-mêmes soumises à la causalité. Dieu viole l'ordre du monde pour y faire surgir non ce qu'il veut produire, mais des causes qui amèneront ce qu'il veut produire à titre d'effet. Si on y réfléchit, ces suppositions correspondent exactement à la situation de l'homme devant la matière. L'homme a des fins particulières qui l'obligent à des interventions particulières, lesquelles sont soumises à la loi de causalité. Qu'on imagine un grand propriétaire romain, qui a de vastes domaines et de nombreux esclaves. Puis, qu'on élargisse le domaine aux dimensions mêmes de l'univers. Telle est la conception de Dieu qui domine en fait une partie du christianisme, et dont la souillure contamine peut-être même plus ou moins le christianisme entier, excepté les mystiques. Si on suppose un tel propriétaire vivant seul, sans jamais rencontrer d'égo, sans aucune relation sinon avec ses esclaves, on se demande comment une fin particulière peut surgir dans sa pensée. Il n'a pas lui-même de besoins insatisfaits. Cherchera-t-il le bien de ses esclaves? En ce cas, il s'y prendrait bien mal, car en fait, les esclaves sont en proie au crime et au malheur. Si on cherche à leur inspirer de bons sentiments, en énumérant tout ce qu'il y a d'heureux dans leur sort, comme faisaient sans doute jadis les prédicateurs esclavagistes en Amérique, on ne rend que plus manifeste combien cette part de bien est limitée, combien il y a disproportion entre la puissance attribuée au maître et la part respective du bien et du mal. Comme on ne peut le dissimuler, on dira aux esclaves que, s'ils sont malheureux, c'est par leur faute. Mais cette affirmation, si on l'accepte, n'apporte aucun éclaircissement au problème de savoir ce que peuvent être les volontés du propriétaire. Il est impossible de se représenter ses volontés autrement que comme des caprices dont certains sont bienveillants. En fait, on se les représente ainsi. Toutes les tentatives pour déceler dans la structure de l'univers les marques de la bienveillance du propriétaire sont sans aucune exception du même niveau que la phrase de Bernardin de Saint-Pierre sur les melons et les repas en famille. Il y a dans ces tentatives la même absurdité centrale que dans les considérations historiques sur les effets de l'incarnation. Le bien qu'il est donné à l'homme d'observer dans l'univers est fini, limité. Essayer d'y trouver une marque de l'action divine, c'est faire de Dieu lui-même un bien fini, limité. C'est un blasphème. Les tentatives du même genre, dans l'analyse de l'histoire, peuvent être illustrées par une pensée ingénieuse exprimée dans une revue catholique de New York, lors du dernier anniversaire de la découverte de l'Amérique. Elle disait que Dieu avait envoyé Christophe Colomb en Amérique afin qu'il y eût quelques siècles plus tard un pays capable de vaincre Hitler. Cela est encore bien au-dessous de Bernardin de Saint-Pierre. cela est atroce. Dieu, apparemment, méprise lui aussi les races de couleur. L'extermination des populations d'Amérique au XVIe siècle lui paraissait peu de chose au prix du salut des Européens du XXe siècle, et il ne pouvait pas leur amener le salut par des moyens moins sanglants. On croirait qu'au lieu d'envoyer Christophe Colomb en Amérique plus de 4 siècles à l'avance, il aurait été plus simple d'envoyer quelqu'un assassiner Hitler aux environs de 1923. On aurait tort de penser que c'est là un degré exceptionnel de bêtise. Toute interprétation providentielle de l'histoire est par nécessité située exactement à ce niveau. C'est le cas pour la conception historique de Bossuet. Elle est à la fois atroce et stupide, également révoltante pour l'intelligence et pour le cœur. Il faut être bien sensible à la sonorité des mots pour regarder ce prélat courtisan comme un grand esprit. Quand la notion de providence est introduite dans la vie privée, le résultat n'est pas moins comique. Quand la foudre tombe à 1 centimètre de quelqu'un sans le toucher, il croit souvent avoir été préservé par la providence. Ceux qui sont à 1 kilomètre de là ne pensent pas devoir la vie à une intervention de Dieu. Apparemment, quand le mécanisme de l'univers est sur le point de tuer un être humain, Dieu se demande s'il lui plaît ou non de lui sauver la vie, et s'il décide de le faire, il donne un coup de pouce presque imperceptible au mécanisme. Il peut bien déplacer la foudre 1 centimètre pour sauver une vie, mais non pas 1 kilomètre, encore moins l'empêcher purement et simplement de tomber. Il faut croire qu'on pense ainsi. Autrement, on se dirait que la providence intervient pour nous empêcher d'être tués par la foudre à tous les instants de notre vie, au même degré qu'à l'instant où la foudre tombe à 1 centimètre de nous. L'unique instant où elles n'interviennent pas pour empêcher que tel être humain soit tué par la foudre, c'est l'instant même où la foudre le tue, si du moins cela se produit. Tout ce qui n'arrive pas est empêché par Dieu au même degré. Tout ce qui arrive est permis par Dieu au même degré. La conception absurde de la providence comme intervention personnelle et particulière de Dieu à des fins particulières est incompatible avec la vraie foi. Mais ce n'est pas une incompatibilité évidente. Elle est incompatible avec la conception scientifique du monde. Et là, l'incompatibilité est évidente. Les chrétiens qui, sous l'influence de l'éducation et du milieu, ont en eux cette conception de la providence, ont aussi la conception scientifique du monde. Et cela sépare leur esprit en 2 compartiments, entre lesquels se trouve une cloison étanche. L'un pour la conception scientifique du monde, l'autre pour la conception du monde comme domaine où agit la providence personnelle de Dieu. De ce fait, ils ne peuvent penser ni l'une ni l'autre. La seconde, d'ailleurs, n'est pas pensable. Les incroyants, n'étant arrêtés par aucun respect, discernent facilement que cette providence personnelle et particulière est ridicule, et la foi elle-même est de ce fait, à leurs yeux, frappée de ridicule. Les desseins particuliers qu'on attribue à Dieu sont des découpages pratiqués par nous dans la complexité plus qu'infinie des connexions de causalité. Nous les pratiquons en joignant, à travers la durée, certains événements à certains de leurs effets choisis parmi des milliers d'autres. En disant de ces découpages qu'ils sont conformes au vouloir de Dieu, nous avons raison. Mais cela est vrai au même degré et sans aucune exception de tous les découpages qui pourraient être pratiqués par toute espèce d'esprit humain ou non humain, à n'importe quelle échelle de grandeur, à travers l'espace et le temps, dans la complexité de l'univers. On ne peut pas découper dans la continuité de l'espace et du temps un événement qui serait comme un atome. mais l'infirmité du langage humain oblige à parler comme si on le pouvait. Tous les événements qui composent l'univers dans la totalité du cours des temps, chacun de ces événements, chaque assemblage possible de plusieurs événements, chaque relation entre deux événements ou davantage, entre deux assemblages d'événements ou davantage, entre un événement et un assemblage d'événements, tout cela, au même degré, a été permis par le vouloir de Dieu. Tout cela, ce sont les intentions particulières de Dieu. La somme des intentions particulières de Dieu, c'est l'univers lui-même. Seul ce qui est mal est excepté. Et cela même doit être excepté non pas tout entier, sous tous les rapports, mais uniquement pour autant que cela est mal. Sous tous les autres rapports, cela est conforme au vouloir de Dieu. Un soldat frappé d'une blessure très douloureuse et empêché par elle de prendre part à une bataille où tout son régiment est massacré, pourra croire que Dieu a voulu, non lui causer de la douleur, mais lui sauver la vie. C'est là une extrême naïveté et un piège de l'amour-propre. Dieu a voulu et lui causer de la douleur et lui sauver la vie et produire tous les effets qui, en fait, se sont produits, mais non pas l'un d'entre eux davantage qu'un autre. Il n'y a qu'un cas où il soit légitime de parler de vouloir particulier de Dieu, c'est quand surgit dans une âme une impulsion particulière qui porte la marque reconnaissable des commandements de Dieu. Mais il s'agit alors de Dieu en tant que source d'inspiration. La conception actuelle de la Providence ressemble à l'exercice scolaire qu'on nomme « explication française », quand il est exécuté par un mauvais professeur sur un texte poétique parfaitement beau. Le professeur dira « Le poète a mis tel mot pour obtenir tel effet. » Cela ne peut être vrai que pour la poésie de deuxième, dixième ou cinquantième ordre. Dans un fragment poétique parfaitement beau, tous les effets, toutes les résonances, toutes les évocations susceptibles d'être amenées par la présence de tel mot à telle place répondent au même degré, c'est-à-dire parfaitement, à l'inspiration du poète. Il en est de même pour tous les arts. C'est ainsi que le poète imite Dieu. L'inspiration poétique à son point de suprême perfection, est une des choses humaines qui peuvent, par analogie, donner une notion du vouloir de Dieu. Le poète est une personne. Pourtant, dans les moments où il touche à la perfection poétique, il est traversé par une inspiration impersonnelle. C'est dans les moments médiocres que son inspiration est personnelle. Et ce n'est pas alors vraiment de l'inspiration. En se servant de l'inspiration poétique comme d'une image pour concevoir par analogie le vouloir de Dieu, il ne faut pas en prendre la forme médiocre, mais la forme parfaite. La providence divine n'est pas un trouble, une anomalie dans l'ordre du monde. C'est l'ordre du monde lui-même. Ou plutôt, c'est le principe ordonnateur de cet univers. C'est la sagesse éternelle, unique, étendue à travers tout l'univers, en un réseau souverain de relations. C'est ainsi que l'a conçue toute l'Antiquité pré-romaine. Toutes les parties de l'Ancien Testament où a pénétré l'inspiration universelle du monde antique nous en apportent la conception enveloppée d'une splendeur verbale incomparable. Mais nous sommes aveugles. Nous lisons sans comprendre. La force brute n'est pas souveraine ici-bas. Elle est par nature aveugle et indéterminée. Ce qui est souverain ici-bas, c'est la détermination, la limite. La sagesse éternelle emprisonne cet univers dans un réseau, dans un filet de détermination. l'univers ne s'y débat pas. La force brute de la matière, qui nous paraît souveraineté, n'est pas autre chose en réalité que parfaite obéissance. C'est là la garantie accordée à l'homme, l'arche d'alliance, le pacte, la promesse visible et palpable ici-bas, l'appui certain de l'espérance. C'est là la vérité qui nous mord le cœur chaque fois que nous sommes sensibles à la beauté du monde. C'est la vérité qui éclate avec d'incomparables accents d'allégresse dans les parties belles et pures de l'Ancien Testament, en Grèce chez les pythagoriciens et tous les sages, en Chine chez Lao Tzu, dans les écritures sacrées hindoues, dans les fragments égyptiens. Elle est peut-être cachée dans d'innombrables mythes et contes. Elle apparaîtra devant nous, sous nos yeux, dans notre propre science, si un jour, comme à Agar, Dieu nous dessile les yeux. On la discerne à travers les paroles mêmes dans lesquelles Hitler affirme l'erreur contraire. Dans un monde où les planètes et les soleils suivent des trajectoires circulaires, où des lunes tournent autour des planètes, où la force règne partout et seule, en maîtresse de la faiblesse qu'elle contraint à la servir docilement ou qu'elle brise. Fin de citation. Comment la force aveugle susciterait-elle des cercles? Ce n'est pas la faiblesse qui sert docilement la force. C'est la force qui est docile à la sagesse éternelle. Hitler et sa jeunesse fanatique n'ont jamais senti cela en regardant les astres la nuit. Mais qui a jamais essayé de le leur enseigner? La civilisation dont nous sommes si fiers a tout fait pour le dissimuler. Et tant que quelque chose dans notre âme est capable d'être fier d'elle, nous ne sommes innocents d'aucun des crimes d'Hitler. En Inde, un mot dont le sens originel est « équilibre » signifie à la fois l'ordre du monde et la justice. Voici un texte sacré à ce sujet qui, sous une forme symbolique, est relatif à la fois à la création du monde et à la société humaine. Dieu, en vérité, existait à l'origine, absolument seul. Étant seul, il ne se manifestait pas. Il produisit une forme supérieure, la souveraineté. C'est pourquoi il n'est rien au-dessus de la souveraineté. C'est pourquoi, dans les cérémonies, le prêtre est assis au-dessous du souverain. Dieu ne se manifestait pas encore. Il produisit la classe des paysans, artisans et marchands. Il ne se manifestait pas encore. Il produisit la classe des serviteurs. Il ne se manifestait pas encore. Il produisit une forme supérieure, la justice. La justice est la souveraineté de la souveraineté. C'est pourquoi il n'est rien au-dessus de la justice. Celui qui est sans puissance peut égaler celui qui est très puissant au moyen de la justice, comme au moyen d'une autorité royale. Ce qui est justice, cela est vérité. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit la vérité, on dit « il dit juste ». Et quand quelqu'un dit la justice, on dit « il dit vrai ». C'est que réellement, la justice et la vérité sont la même chose. Une stance hindoue très antique dit « Cela d'où le soleil se lève, cela dans quoi il se couche, cela, les dieux l'ont fait justice, la même aujourd'hui, la même demain. » Anaximandre a écrit « C'est à partir de l'indéterminé qu'a lieu la naissance pour les choses, et la destruction est un retour à l'indéterminé qui s'accomplit en vertu de la nécessité. Car les choses subissent un châtiment et une expiation les unes de la part des autres, à cause de leur injustice, selon l'ordre du temps. C'est cela la vérité, et non pas la conception monstrueuse puisée par Hitler dans la vulgarisation de la science moderne. Toute force visible et palpable est sujette à une limite invisible qu'elle ne franchira jamais. Dans la mer, une vague monte, monte et monte, mais un point, où il n'y a pourtant que du vide, l'arrête et la fait redescendre. De la même manière, le flot allemand s'est arrêté, sans que personne ait su pourquoi, au bord de la Manche. Les pythagoriciens disaient que l'univers est constitué à partir de l'indéterminé et du principe qui détermine, qui limite, qui arrête. C'est lui toujours qui domine. La tradition relative à l'arc-en-ciel, sûrement empruntée par Moïse aux Égyptiens, exprime de la manière la plus touchante l'espérance que l'ordre du monde doit donner aux hommes. Dieu dit : À l'avenir, lorsque j'amoncellerai des nuages sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nue, je me souviendrai de mon alliance avec vous et tous les êtres animés, et les eaux ne deviendront plus un déluge. Le beau demi-cercle de l'arc-en-ciel est le témoignage que les phénomènes d'ici-bas, si terrifiants soient-ils, sont tous soumis à une limite. La splendide poésie de ce texte veut qu'il fasse souvenir Dieu d'exercer sa fonction de principe qui limite. Tu as fixé aux eaux des barrières infranchissables pour les empêcher de submerger de nouveau la terre. Et comme les oscillations des vagues, toutes les successions d'événements ici-bas, étant toutes des ruptures d'équilibre mutuellement compensées, des naissances et des destructions, des accroissements et des amoindrissements, rendent toutes sensibles la présence invisible d'un réseau de limites sans substance et plus dur qu'aucun diamant. C'est pourquoi les vicissitudes des choses sont belles, quoiqu'elle laisse apercevoir une nécessité impitoyable. Impitoyable, mais qui n'est pas la force, qui est maîtresse souveraine de toute force. Mais la pensée qui a véritablement enivré les anciens, c'est que ce qui fait obéir la force aveugle de la matière n'est pas une autre force plus forte. C'est l'amour. Il pensait que la matière est docile à la sagesse éternelle par la vertu de l'amour qui la fait consentir à l'obéissance.